Place Info.
Bonsoir à la une, nous y sommes presque J-2 pour les municipales, J-2 le deuxième tour, avec en suspens l'avenir d'Édouard Philippe et le mystère sur les intentions d'Emmanuel Macron. C'est dans les informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec vous Marie-Virginie Klein, vice-présidente de WILA, association de créatrices d'entreprises et directrice générale adjointe de Tilder, avec Éric Scholl, le directeur de L'Express, et Franck de Dieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Son avenir à Matignon est-il en sursis? Ce sera l'un des enjeux centraux de ce deuxième tour des élections municipales. Édouard Philippe arrivé en tête au Havre au premier tour avec 43,6% des suffrages affrontera Jean-Paul Lecoq en duel dimanche, le candidat communiste qui a réalisé 35,9% mais n'a pas fusionné avec les écologistes. Le Premier ministre donné favori, qui n'est pas assuré de rester à Matignon, s'est montré, on va dire, philosophe ce matin lors d'une visite de terrain en campagne.
Il faut être très déterminé à peser sur ce sur quoi on peut peser et à faire bien ce qu'on peut faire. Et puis après, il faut une forme de distance avec les choses sur lesquelles finalement on a peu prise. Avec l'âge, je me sens plus emprunt par cette sagesse-là que par d'autres.
Voilà, un joli rire à la fin du Premier ministre. Sophie de Ravinel, qu'est-ce qu'il faut traduire de ces mots?
C'est très étonnant, le silence. Très déterminé, comme s'il avait du mal à définir sa détermination, hésitant entre Le Havre, Matignon, son avenir.
Qui ne dépend pas de lui.
Absolument, ce qui ne dépend pas de lui. Et il le dit d'ailleurs très bien, à faire du mieux ce qui nous est donné de faire. Et donc, une inconnue pour lui. Et je me demande aussi si ce n'est pas une inconnue encore, peut-être, dans... la tête du chef de l'État.
Oui, c'est ça. Emmanuel Macron ne sait pas forcément ce qu'il adviendra de son Premier ministre, Franck de Dieu.
Il semblait très hésitant et ça veut dire quand même que beaucoup de gens sont hésitants. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a une stratégie du maintien de la part d'Emmanuel Macron, du maintien d'Édouard Philippe. Ce serait en gros de poursuivre une sorte de « en même temps » qui lui avait réussi en 2017. C'est-à-dire que Édouard Philippe, il incarne un peu, il plaît à la bourgeoisie de droite. Comme Pompidou, d'ailleurs, avec le couple de Gaulle. De Gaulle, il était un petit peu instable, il plaisait plus trop vers la fin à la bourgeoisie. Pompidou, oui, Édouard Philippe, il plaît à la bourgeoisie de droite.
Et puis, il rassure, la bourgeoisie.
Il rassure, exactement. Et puis, d'un autre côté, ce en même temps, c'est-à-dire de faire entrer de verdir un peu ce gouvernement, quelques poids lourds étiquetés verts. Et donc, vous prolongez cette stratégie du en même temps avec une bourgeoisie, de droite qui est rassurée, et puis une gauche qui s'encanaille un petit peu avec un gouvernement légèrement verdi dans le droit fil de la Convention citoyenne.
Éric Scholl, quel sera le visage de ce gouvernement à venir, ce remaniement
de vouloir remettre ça sous l'angle gauche-droite.
Le profil du Premier ministre, ça compte quand même, parce que ça donne la couleur de ce que sera la politique de demain.
Bien sûr. Et donc, si on doit réinventer, si on doit tout changer, et si on ne change pas le Premier ministre, c'est exactement l'équation qui devient compliquée pour Emmanuel Macron. Il a promis de tout réinventer. Et s'il ne changeait pas son Premier ministre, comment fait-il? Ça veut dire que dans ce cas-là, il doit tout changer, tout le reste? Ou alors, et en même temps, se débarrasser de ce Premier ministre qui est si, finalement, relativement populaire, qui a passé à travers cet exercice si compliqué de la gestion du Covid et qui a plutôt très bien réussi cet exercice, même si la gestion en elle-même peut être critiquée, lui-même a été plutôt très apprécié pendant cette... Il s'est révélé, et il s'était même révélé d'ailleurs dès le départ, au fond, au départ, quand il arrive à Matignon, il n'a pas de munitions politiques, personne ne le connaît réellement, et on se dit, il va faire le... On ne le connaît pas. Et petit à petit, il arrive à former un tandem.
Il s'est fait connaître, oui.
Le grand public ne le connaît peu. Il arrive à former un tandem avec Emmanuel Macron, à trouver sa place, qui n'était pas si facile que ça, à trouver sa place, en quelque sorte, en creux. Mais finalement, en creux, il a fini par s'affirmer. Et c'est ce qu'on a vu lors de cette crise du Covid.
Pour le chef de l'État, Marie-Virginie Klein. Alors, ce Premier ministre-là, est-ce qu'il doit être lundi matin loyal, se réinventer lui-même, si je puis dire, pour rester loyal pour le nouveau chemin d'Emmanuel Macron? Ou est-ce que c'est l'homme de droite, fidèle d'Alain Juppé, faut-il le rappeler, qui peut reprendre son chemin à lui et être fidèle à lui-même pour d'autres destins. C'est ça la question aussi.
Oui, toute la question est là. Et je pense que... Enfin, je rebondis sur ce que vient de dire Eric Scholl, je suis tout à fait d'accord. C'est presque dans les politiques celui qui a le mieux réussi et qui a marqué le plus de points après la crise Covid. Et d'ailleurs, les études d'opinion le confirment. Moi, je pense quand même qu'il a trop bien passé cette crise. Et que en réalité... Bah oui, parce que en réalité, si il sort du gouvernement, Emmanuel Macron fabrique son premier adversaire pour les élections de 2022.
Impossible concurrent pour 2022.
Impossible concurrent parce qu'il sortira au plus haut, il sortira au meilleur de lui-même, il sortira comme ayant très bien géré la crise parce qu'il était dans le concret et que cette crise était une question de concret. Et s'il reste, il gagne aussi parce qu'il montre qu'il est indispensable et qu'il parvient à passer toutes les étapes. Donc d'où la sérénité, le calme et la philosophie, je pense, dans l'extrait que vous
distance,
avez diffusé.
La distance, le petit rire à la fin. Sophie Dravinel, nous pourrions revivre, si l'on en croit Marie Virginie Klein, une sorte de Giscard versus Chirac 2.0. Quoi.
Oui, c'est ça, mais on revit aussi peut-être quelque chose qu'on a vu déjà entre Emmanuel Macron et François Hollande, avec cette idée que l'un puisse se présenter contre l'autre, même si on a entendu récemment Gilles Boyer insister en disant son compagnon de toujours, il ne se présentera pas contre Emmanuel Macron, mais il y avait dans ses paroles quelque chose qui ressemblait quand même un tout petit peu à la menace du « je suis là et je peux m'imposer », même si le timing, effectivement, n'est pas forcément le meilleur.
Oui, encore faut-il que le Premier ministre l'emporte dimanche au Havre. Et cette histoire-là, c'est le jeu de la démocratie. Cette histoire-là n'est pas encore écrite. 20h10 sur France Info, le Fil Info avec Frédéric Bagnada.
Dernières heures de campagne pour les candidats aux municipales. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour convaincre. En campagne au Havre cet après-midi, Édouard Philippe s'est dit déterminé mais philosophe, sans évoquer explicitement un possible remaniement gouvernemental. Nicole Belloubet veut des explications. La ministre de la Justice réclame un rapport sur la nature des investigations du parquet national financier qui a visé plusieurs ténors du barreau de Paris. Il s'agissait de trouver la taupe qui a informé Nicolas Sarkozy d'écoute téléphonique le concernant. Une affaire qui scandalise une grande partie de la classe politique. La douche froide pour les salariés de Sanofi. Un peu plus d'une semaine après la visite d'Emmanuel Macron, le groupe pharmaceutique annonce la suppression de 1700 emplois, dont plus d'1 million en France. Un plan social alors que les ventes du groupe ont été dopées au premier trimestre par la crise sanitaire. Une nouvelle attaque au couteau en Grande-Bretagne, à Glasgow, dans le centre de l'Angleterre. Un homme a blessé 6 personnes, dont un policier. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Une vingtaine de départements du centre et de l'ouest de la France placés en vigilance orange aux orages. On attend d'importantes précipitations, de la grêle et de fortes rafales de vent. L'alerte est valable jusqu'à demain matin.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Le voilà donc ce deuxième tour, dans 2 jours, des élections municipales hors normes, faut-il le rappeler également. Nous allons en décrypter quelques enjeux dans un paysage politique bousculé par cette double crise sanitaire et désormais économique et sociale. Pour planter le décor, voici tout d'abord la supposée, on va dire, poussée écologiste, revendiquée haut et fort ce matin par Yannick Jadot, le député européen Europe Écologie des Verts sur BFM TV.
Imaginez Paris. Oui. Lyon, oui. Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes, Rennes, c'est pas que les écologistes qui tirent, mais tous et toutes le font autour de l'écologie. Et moi, ces forces du renouveau qui se rassemblent dans ce beau projet pour conquérir le pouvoir, pas pour l'occuper, pour l'exercer, l'accaparer, pour le rendre aux citoyens. Bien sûr.
Ce serait un vrai tournant politique.
Ce serait un magnifique tournant politique.
Alors, magnifique tournant politique, Sophie Dravinel explique Yannick Jadot, qui égrène ces villes qui pourraient tomber dans l'escarcelle des Verts. Ce serait un sacré tournant, en tous les
cas.
Oui,
ce serait un moment historique pour eux. Ce serait un moment historique pour eux. On le sent venir, quand même. Les enquêtes d'opinion le disent sur le terrain. Après, dans une ville comme Marseille, les jeux sont loin d'être faits, même si Michel Rubirola, qui est écologiste et qui est à la tête du Printemps marseillais, a une coalition assez large, et 5 points devant notamment Martine Vassal, ça se joue par secteur là-bas. Mmh. Et donc tout évidemment dépendra du secteur, comme à Paris, même si à Paris Anne Hidalgo a beaucoup plus d'avance et une beaucoup plus solide. Mais effectivement, on sent cette bascule. Et même à Lille, j'allais dire, il y a un risque pour Martine Aubry, et ce serait très emblématique évidemment pour la recomposition de la gauche. À Strasbourg aussi, même si Jeanne Barseguian est embêtée par Catherine Trottmann, la socialiste, et menacée par un duo LR-LREM. Et d'ailleurs, ce sont ces duos LR-LREM qui ont bloqué, qui tentent de bloquer au maximum cette vague. Mais on sent qu'elle peut arriver. À Lyon, c'est quasi certain. Et effectivement, même si à Bordeaux, ça ne l'est pas, la tension est forte.
Toulouse, évidemment.
Oui. Il y a un désir, Franck, de Dieu, de d'écologie qui vient du fond.
Ah oui, manifestement. Alors on sait qu'il y a un momentum.
La population.
Oui, voilà. Il y a un momentum vert, bien sûr, lié au post-Covid ou lié à la Convention citoyenne. Et puis je crois que quelque part, les Français, me semble-t-il, se disent que au fond, le local, la municipalité, c'est l'échelle idéale pour l'écologie. Parce que c'est finalement l'écologie sympa, elle est pas punitive. Quand c'est l'État, il y a un peu une taxe carbone, alors là, on se méfie. Quand c'est à l'échelle mondiale, les COP 22, COP 23, COP 24, oui, on s'aperçoit que,
pas punitive à Paris.
On n'y arrive pas. Ah. Et alors que, quelque part, je dirais, l'écologie municipale, c'est le vélo,
oui, enfin,
c'est
plutôt les sympa. Les adeptes des voitures, d'une certaine mesure, c'est
l'échelle idéale. Ça veut pas dire que pour le coup on aura une élection nationale avec des poussées vertes ou départementale avec des poussées vertes. Ça c'est pas sûr du tout. Mais en revanche, si vous voulez, c'est le moment idéal à la fois au niveau du cadre, de l'échelle, et à la fois lié bien sûr aux événements récents.
Oui, Marie-Virginie Klein, la droite, la gauche, les blocs de jadis, tout ça est un peu bon. Ce sont des élections locales, c'est toujours un peu plus compliqué à chaque fois, mais tout ça tend à disparaître aujourd'hui. Hein. Il y a une poussée écologiste et puis il y a des mariages au gré des appétits locaux, et puis les appareils, eux, eh bien, ils essaient de s'adapter.
Alors moi, j'ai plutôt le sentiment de l'inverse là sur ces élections municipales.
Tu trouves que ça revient en arrière?
Bah, je trouve que finalement les gagnants, en tout cas, on ne sait pas qui gagnera, mais dans les sondages et si on observe un peu, le parti qui vraiment pâtit des municipales, le premier, c'est le nouveau parti, le parti de la République en Marche, puisqu'on voit qu'ils sont en train de perdre vraiment énormément de terrain dans des villes très très importantes, au profit justement des bons partis traditionnels comme les LR et notamment, là on parle d'Europe Écologie Les Verts, du PS qui se verdit. Hein. Il y a quand même des alliances très fortes.
Et le PS qui va être très forte, qui devrait être très fort dimanche soir.
Oui, c'est le principe de la pastèque. Hein,
absolument, mais on ne parle que des écologistes, mais de fait, le Parti Socialiste pourrait gagner des villes importantes, se maintenir dans ces grandes villes et apparaître comme le principal vainqueur dimanche soir, en chiffres en tout cas, sans doute peut-être devant les écologistes.
Une forme de revanche pour finir.
Oui, c'est la fin. Ces élections municipales marquent vraiment un essoufflement des nouveaux partis, du renouveau, etc., de la République en marche, au profit de la bonne politique traditionnelle droite-gauche, comme on l'aime et comme on sait la lire.
Éric Scholl, c'est la prime au sortant, l'assurance d'une vie tranquille localement. On a quelque chose, une envie de, après ce Covid-19, de peut-être de garder une certaine forme de stabilité dans les territoires.
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'essoufflement de la République en marche, puisque en fait, c'est la première fois qu'il se présente à l'élection municipale. Et donc, en fait, c'est plutôt cette difficulté de s'ancrer localement.
Oui, mais le charme de 2017 est un brin atténué.
Si on compare aux européennes, c'est un essoufflement. Mais c'est vrai que c'est leur première municipale.
Dans la capacité de faire monter des élus locaux, c'est là toute la difficulté. Et effectivement, ça va être plutôt un revers, parce qu'ils s'imaginaient pouvoir prendre nombreuses villes. Ils vont peut-être se retrouver avec Toulouse. Pardon, pas Toulouse, mais plutôt Strasbourg. Et c'est sans doute à peu près tout, en tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est quand même, ça va être très difficile pour les LREM.
D'autre part,
pour les écolos, en revanche, effectivement, ce qu'on voit en France, d'abord on le voit ailleurs, hein, mais ça fait longtemps qu'on le voit en Allemagne, mais maintenant on a bien vu, et je pense que les écologistes regardent de très près ce qui se passe en Allemagne, on a vu comment les Verts allemands ont pris dans tous les Länder, sont arrivés dans les gouvernements locaux, et ont pris des responsabilités locales, et au fond c'est comme ça qu'ils ont prouvé aussi leur capacité à gouverner localement, et peut-être un jour à accéder à des vraies responsabilités au plan national. Ce qui, pour le moment, en France, est encore, même s'ils l'ont déjà fait, on a déjà vu des ministres verts, mais on voit que c'est toujours, toujours compliqué sur le plan national.
Sophie Dravinel,
avec une toute petite insertion sur les Grünen, qui sont quand même très, les Verts allemands, qui sont très différents des divers conseils.
Et qui ont plus de responsabilités de gouvernement.
Qui ont des choix politiques différents d'alliances avec des partis très larges, beaucoup plus qu'en France.
Franck de Dieupost, pourquoi est-ce que vous titrez à la une de Marianne municipale, régionale, tripatouillage et abstention vous avez une vision un peu sombre de ce scrutin.
Alors, d'abord, sur le plan de l'abstention, on s'est dit, on parlait justement d'Edouard Philippe, on s'est dit, on va regarder, compte tenu de l'abstention, les inscrits. Combien ces candidats ont reçu de voix par rapport aux inscrits.
Eh
bien, vous avez beaucoup de villes, tenez-vous bien, où vous avez les premiers arrivés, qui seront peut-être les futurs maires dimanche, qui ont reçu moins de 10% des inscrits. Martine Aubry, 9%.
Vous voulez dire que ce n'est plus assez représentatif.
Il y a un véritable problème, je le regrette, de légitimité. À Strasbourg, 9%. À Metz, 9%. À Hidalgo, le nombre de suffrages par rapport à 2014, moins 31%. Martine Aubry, moins 39% des voix par rapport à 2014.
Est-ce que ce n'est pas le lot de chaque élection?
Oui, bien sûr. Alors, de chaque élection, peut-être de cette élection précisément, bien entendu. Mais c'est pas pour s'en réjouir. C'est pour dire aussi que ce déficit de légitimité, ils vont le traîner pendant tout leur mandat à chaque conseil municipal. Ça va être extrêmement dur pour eux. Donc, effectivement, on peut tirer des grandes conclusions sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, un sixième seulement du corps électoral a voté pour lui.
C'est
un
sixième. Assez cruel.
Il est premier ministre.
Ce travail est assez cruel.
Ah non,
finalement.
Mais ça a été terrible. Un électeur sur six a voté pour le premier ministre au Havre. Donc c'est extrêmement peu. Effectivement, bien sûr, il y avait le Covid. C'est un peu facile de faire des divisions, mais ça pose quand même un gros problème de légitimité. Et il faut rappeler que tout de même, c'est, je dirais, les élus préférés des Français, les maires.
Marie-Virginie Klein, sur cette remise en cause de votre voisin à l'instant, Franck de Dieu, la légitimité du politique, c'est quelque chose qui s'effrite quand même au fil des années. Hein.
Moi, j'ai l'impression que là, avec la crise Covid, il y a eu un vrai cas de conscience et que on n'a jamais été aussi éloigné du politique que ça. D'abord, ce premier tour, il n'aurait jamais dû avoir lieu. Il est déjà lui-même très mis en cause. Et en plus de ça, tout le monde se dit, je vais voter pile au moment où il y a quelques nouveaux foyers qui se manifestent un peu partout en France. Non. Ma priorité, c'est pas celle-là, je n'irai pas. Et donc, on risque d'avoir une abstention record.
Allez, 20h20 sur France Info. Le Fil Info, Frédéric Bagnana.
Nicole Belloubet demande un rapport circonstancié après les révélations du Point sur l'enquête menée par le parquet national financier à la recherche de la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy d'écoutes téléphoniques le concernant. Des dizaines de factures téléphoniques de ténors du barreau de Paris ont été épluchées. L'affaire a suscité un tollé au sein de la classe politique. Dernière ligne droite de la campagne des municipales. Elle s'achève ce soir à minuit avant le second tour. Dimanche, on s'attend une nouvelle fois à une forte abstention. La litanie de plans sociaux se poursuit. Sanofi annonce à son tour la suppression de 1700 emplois, dont un millier en France. Une réorganisation du groupe qui n'est pas liée aux conséquences économiques du Covid, explique la direction. Elle intervient 10 jours après la visite en grande pompe d'Emmanuel Macron. Inacceptable, honteux, impensable, estiment les syndicats. Aux États-Unis, face à l'explosion de cas de Covid, la Floride suspend la consommation d'alcool dans les bars. Un état connu pour ses fêtes et ses plages, sans doute incompatible avec une distanciation physique. Et puis, il abandonne le ballon ovale pour le ballon rond. L'ancien président du rugby club de Toulon, Mourad Boudjelal, veut racheter l'Olympique de Marseille. Il va déposer un projet de rachat soutenu par des investisseurs du Moyen-Orient.
France Info. Et tout est plus clair.
20h21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, eh bien, il consulte, il a fait ça toute la semaine. Et à midi, un déjeuner pas comme les autres avec son mentor, enfin son ex-mentor François Hollande. Dieu sait si leur relation est un peu, on va dire, un peu rafraîchie depuis 2017. Le ton était courtois, franc et républicain, explique l'entourage. Ça, c'est la formule magique. Sophie de Ravinel, quel intérêt pour Emmanuel Macron de consulter François Hollande?
Il a consulté aussi Nicolas Sarkozy, il va consulter au téléphone je crois, à VGE, il les avait déjà consultés.
Valéry Giscard d'Estaing. Oui.
Valéry Giscard d'Estaing, excusez-moi. Il les avait déjà aussi eu au téléphone avant le Covid. Il y a une volonté de cohésion nationale, de discussion avec les uns et les autres, de construire peut-être une sorte de, non pas d'union, mais de se donner l'idée qu'il consulte de tous les côtés dans son dans cet élargissement qu'il a toujours, cette volonté d'élargissement de sa base. Et effectivement, voilà, c'est surtout une image. Après, je ne sais pas ce qui peut tirer d'un tel repas.
C'est de l'affichage, en fait. C'est, j'imagine. Oui. Alors, Éric Scholl, François Hollande, hein, c'est ce qu'indique Yannick Falt du service politique de France Info, aurait insisté auprès d'Emmanuel Macron sur la nécessité de faire de l'urgence économique, sociale, écologique la priorité de la fin du quinquennat. Bon, fermeture d'entreprises, plans sociaux, du chômage chez les jeunes, montée de la pauvreté, baisse du pouvoir d'achat. Quel inventaire, l'ancien maître. Éric Scholl qui vient au fond délivrer une leçon à celui qui fut son élève turbulent.
Oui, bon, est-ce que c'est le moment d'aller refaire le bilan du quinquennat de François Hollande ? Est-ce qu'il est en capacité de faire donner des leçons à son successeur ? Est-ce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé entre 2012 et 2017 en termes de chômage en France ? Est-ce qu'il faut rappeler, parce qu'il a pour le coup évoqué notamment la fermeture d'une usine en Corrèze de Borg-Werner, est-ce qu'il faut rappeler le bilan industriel de François Hollande ? Florange, Whirlpool, Aulnay, Goodyear, tout ça, ça a été des désastres pendant ce quinquennat. Donc là, on entend François Hollande venir et faire donner la leçon. Je trouve ça un peu inutile, totalement inutile.
Marie-Virginie Klein, le contexte, on le dit hein, chaque fois, chaque jour, c'est éminemment économique et social. C'est Bruno Le Maire qui évoquait il y a une quinzaine de jours les 800 000 suppressions d'emplois dans ce pays en 2020. Sanofi aujourd'hui, 1 000 000 d'emplois, quelle ironie d'ailleurs, Sanofi, avec cette récente visite présidentielle. Au fond, elle est là la priorité.
Ah bah, je pense que dans l'esprit des Français, ce qui va compter avant toute chose, au-delà même du résultat des élections municipales et au-delà d'un remaniement potentiel dans les 15 prochains jours, c'est est-ce que je vais pouvoir conserver mon emploi ? Est-ce que je vais pouvoir sortir du chômage partiel pour retourner vers le plein emploi ? Est-ce que mon fils qui sort ou ma fille qui sort d'études va réussir à trouver un stage ou un contrat d'apprentissage ? Elle est là la préoccupation. Elle est réellement là et je trouve que ce qui manque férocement aujourd'hui dans la parole publique liée aux élections municipales, c'est qu'on ne parle que de politique finalement politicienne, plus que de ce qui concerne le quotidien et les préoccupations quotidiennes.
Vous dites
des
que
gens.
Ce souci est légitime, ô combien légitime pour l'emploi des uns et des autres, ce que vous évoquiez à l'instant, est source de, on va dire, de désaffection des urnes dimanche.
Ah bah moi j'en ai
d'abstention.
J'ai pas d'études évidemment pour le montrer, mais je pense que s'il y a une abstention, c'est que évidemment la priorité n'est pas là et qu'évidemment les gens se disent je ne sais pas si vraiment le politique sera la clé de mon problème, a fortiori quand il s'agit de l'emploi, puisque c'est pas de la responsabilité des maires de garantir l'emploi de
Franck de Dieu, effectivement François Hollande, effectivement c'est ce que disait Éric Scholl, a évoqué cette fermeture de 400 emplois d'une filiale, enfin d'une usine Borg-Werner automobile, BWA en fait. Il y a Sanofi qui parle de 1 000 emplois supprimés aujourd'hui.
Vous vous rappelez
pendant le confinement, le quoi qu'il en coûte, on avait la sensation que désormais c'était priorité à l'emploi, on avait ramené les usines et qu'on allait produire des médicaments en France. C'était le grand message d'espérance. Et là, ça et là, on apprend des suppressions au fond des uns et des autres.
Oui, parce que cela révèle finalement de façon crue le manque de capacité à avoir les leviers, d'exercer les leviers économiques d'Emmanuel Macron. On l'a vu hier ou avant-hier sur le chômage partiel, il est assez généreux, c'est-à-dire qu'il a les moyens, je dirais, de réparer les dégâts causés par un système dont il est lui-même l'objet, enfin plutôt l'issue, c'est-à-dire la mondialisation, le libre-échange. Alors effectivement, pour réparer les dégâts du libre-échange, de la désindustrialisation, eh bien là, on fait du chômage partiel et de façon assez généreuse. Mais on donne l'impression aux Français, et c'est en ce sens que quelque part je fais le lien avec l'abstention, on donne le sentiment aux Français que lorsqu'il s'agit de réparer, de faire de la dépense sociale qui est bienvenue aujourd'hui dans ces circonstances, il ne peut pas véritablement avoir la main sur l'économie, c'est-à-dire de jouer, par exemple, sur des prises de capital de Sanofi, de nationaliser Sanofi. C'est-à-dire que là, les Français n'ont pas besoin de symboles. Vous disiez, il consulte ici ou là, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un petit peu pour avoir une sorte de statut de sagesse, oui, de symbolique. Mais là, on n'est plus dans le symbolique ou dans la sagesse, les Français veulent des actes, et ils s'aperçoivent véritablement que les leviers concrets de modification du système économique
échappent complètement au pouvoir. Alors, oui, effectivement, et on a le sentiment, je suppose que les Français ont ce sentiment qu'on ne fait que repousser l'échéance au moment de laquelle l'économie viendra bousculer le politique et où effectivement le politique n'aura vraiment plus la main et que là, il pourrait se laisser déborder par une espèce de vague parce que le chômage partiel, bon voilà, mais il y a une fin à tout. Et il y a un moment où les choses vont apparaître de façon plus brutale. Et donc effectivement, tout le monde cherche à gagner du temps. Le seul modulo sur l'abstention concernant les élections de dimanche, c'est que j'ai le sentiment quand même que les Français restent ou pourraient rester fidèles à cette élection qui est la plus locale, au moment où justement ils sont particulièrement inquiets sur leur vie. Et c'est peut-être leur vie au quotidien et leur vie économique, et c'est peut-être ce qui peut donner justement plus de force à ces mouvements d'union de la gauche et des écologistes.
Allez, dans un instant, le remaniement supposé qui arrive, et le parquet national financier, les suites, c'est dans la deuxième partie des Informés de France Info.
Entrepreneur, vous trouvez que vous passez trop de temps à la gestion administrative de votre entreprise ? Imaginez ce que vous pourriez faire à la place.
Je prendrais plus de temps pour servir mes clients.
Moi, je créerais mon site internet.
BNP Paribas lance Mon Business Assistant, un service de gestion simple et sécurisé, intégré à votre espace client professionnel. Prévisionnel de trésorerie, devis et factures automatisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mabankpro.bnpparibas. BNP Paribas, toujours là pour vous. Voir conditions sur mabankpro.bnpparibas.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac de Météo France.
Attention aux orages ce soir sur une grande partie du pays. Sur le sud-ouest, le Limousin, le Massif central, ces orages peuvent être violents avec de la grêle, de fortes rafales de vent, des pluies parfois intenses. Ils remontent vers le centre, vers l'est du bassin parisien et le nord-est. Ça commencera à se calmer en première partie de nuit sur le sud-ouest. Demain matin, il restera quelques averses orageuses au nord de la Seine, sur le nord-est également. L'après-midi, le risque orageux s'étendra des Pyrénées au nord-est, sur les Alpes et la montagne corse aussi. Sur le nord-ouest, beaucoup de nuages, quelques pluies, du vent dès le matin. Ils gagneront ensuite les Charentes, la région parisienne, le nord de la Seine. En Méditerranée et en vallée du Rhône, le soleil s'imposera. Il fera 19 à 26 degrés sur l'ouest jusqu'au nord de la Seine, 26 à 33 degrés ailleurs. Et puis dimanche, plus d'éclaircies, un risque d'orage en montagne et des températures de saison.
Sur le site, l'application et sur smartphone, France Info, plateforme d'actualité numéro 1.
Et 20h30 sur France Info, l'info. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Une gardienne de la paix qui porte plainte pour violence à l'encontre de l'un de ses collègues. C'était vendredi dernier, cette fonctionnaire de la police aux frontières a subi une clé d'étranglement effectuée par un policier alors qu'elle se trouvait dans un TER en région parisienne. Le récit de David Di Giacomo.
De retour de mission, ces policiers de la PAF occupent un compartiment à l'écart des voyageurs. La discussion porte sur les techniques d'interpellation. Un policier juge certaines méthodes violentes. Une fonctionnaire lui répond alors qu'il est trop zen. Les échanges se poursuivent et ce policier propose ensuite de tester une prise d'étranglement sur la fonctionnaire, technique qu'il dit n'avoir effectuée qu'une seule fois à l'école de police. La gardienne de la paix se retrouve alors au sol, un genou sur le dos, et raconte que son collègue lui serre le cou très fort. « Je ne pouvais ni respirer ni parler », poursuit-elle dans son rapport d'intervention. « Je me sentais partir ». Deux autres policiers interviennent, ils maîtrisent leur collègue. La police aux frontières a décidé de désarmer ce fonctionnaire et lui a interdit d'être au contact du public. L'enquête administrative est menée par la police des polices. Quant à la plaignante, elle se dit encore sous le choc et ressentir des douleurs.
David Di Giacomo, le tribunal rendra son jugement le 24 septembre dans le dossier de 7 ex-salariés d'Hermès. Ils étaient jugés pour avoir fabriqué des répliques contrefaites du célèbre sac Birkin de la marque de luxe. L'accusation a requis contre eux des peines allant de l'amende à de la prison ferme. C'est un beau coup de filet pour la police judiciaire de Marseille, où un réseau de narcotrafiquants a été démantelé au terme d'un mois d'enquête. 9 personnes ont été arrêtées, une cache d'armes découverte. À l'intérieur se trouvaient des fusils d'assaut et 65 kilos de drogue. Une statue de Napoléon maculée de peinture rouge la nuit dernière, ça s'est passé à La Roche-sur-Yon en Vendée, classée monument historique depuis l'an dernier. Elle est l'un des symboles de la commune fondée par Napoléon Ier en 1804, 2 ans après avoir établi l'esclavage. La mairie de La Roche-sur-Yon a déposé plainte. Une opération escargot à l'appel d'un syndicat de chauffeurs VTC cet après-midi à Paris. Il demande notamment la fin du numerus clausus, l'instauration d'un tarif minimum pour leurs courses, la fin des faux chauffeurs ou encore des aides pour la profession. Une nouvelle journée de mobilisation contre le charbon en Allemagne. Plusieurs dizaines de militants ont occupé 2 mines à ciel ouvert outre-Rhin à quelques jours de l'adoption par le Parlement allemand d'une loi de sortie de ce minerai, une loi qu'ils jugent trop peu ambitieuse. Les relations continuent de se détériorer entre la Chine et les États-Unis alors que Pékin va instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong. Washington annonce ce soir des restrictions de visa des responsables du Parti communiste chinois, jugé responsable d'atteinte aux libertés de l'ancienne colonie britannique. Et puis le TFC n'ira pas en justice alors que l'Assemblée fédérale de la Fédération de football a entériné le format d'une Ligue 1 à 20 clubs pour la saison prochaine. Eh bien, le club toulousain l'accepte, sa relégation en Ligue 2. Il l'annonce aujourd'hui sur son site internet. 20h33 sur France Info, suite et fin des informés.
France Info, les informés. Jean-François Aquilly.
Avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, Marie-Virginie Klein, vice-présidente de WILA, association de créatrices d'entreprises, directrice et générale adjointe de Tilder, avec Eric Scholl, le directeur de L'Express, et Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Maria. Nous évoquions Emmanuel Macron qui, lui, enjambe déjà, si je puis dire, le deuxième tour de ses élections municipales. Son rendez-vous lundi, c'est avec les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat. Nous allons en parler. Pour Philippe de Villiers, qui était l'invité de la chaîne parlementaire LCP, Emmanuel Macron n'a pas vraiment d'idée arrêtée sur la suite.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est un homme du nouveau monde, mais qui est capable de revenir à l'ancien monde. La preuve, dans sa dernière allocution, il parle d'indépendance, de souveraineté, de relocalisation.
On va en parler.
Et donc, il est capable de faire des saltos avant, de faire des saltos arrière.
Franck De Dieu, des saltos avant, des saltos arrière, dit Philippe de Villiers avec son style habituel.
Alors, un salto avant et un salto arrière, ça consiste à revenir à la position initiale. Hein. Je le dis simplement. Hein. Ouais. C'est peut-être ce qui va arriver, sans vouloir faire de transition trop facile. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va être une l'heure de vérité lundi avec les conventionnels, la convention citoyenne, tirée au sort 150
personnes. Pourquoi ce grand rendez-vous logé là, à ce moment-là? Parce que l'agenda présidentiel est contraint pour la suite?
On parlait tout à l'heure de momentum vert. On est là-dedans quand même. On va avoir une vague, probablement une vague verte dimanche.
L'idée, c'est quoi? C'est dire, moi, président, dès le lendemain, regardez,
je réagis pas forcément de façon, je dirais, avec du casting politique. Je réagis dans le dur, en discutant de 150 propositions qui sont concrètes, qui peuvent être discutées les 120, les 130 km/h et les 110, mais qui ne contiennent pas uniquement que cette mesure-là. Il y en a d'autres. Et là, pour le coup, je disais tout à l'heure, c'est une heure de vérité. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, est-ce qu'il va véritablement entrer dans une politique de dépenses publiques, non pas pour corriger, pour faire de la dépense sociale, mais pour, au contraire, prendre à bas le corps un système, changer de système, qui demande évidemment beaucoup, beaucoup d'investissements, une sorte de New Deal vert. L'expression est un peu galvaudée, certes, mais elle a quand même beaucoup d'intérêt parce qu'il y a un retour sur investissement. C'est des dépenses, mais c'est aussi un retour concret sur investissement. Je pourrais vous donner des exemples si vous le souhaitez.
L'économie circulaire, la transition écologique, Marie-Virginie,
la rénovation thermique.
Rénovation thermique, absolument. Marie-Virginie Klein, cette réunion qui arrive lundi, ce n'est pas seulement un artifice, c'est une façon de, au fond, de préempter ce qui se passe dans ces municipales où, au fond, la majorité également n'a pas grand-chose à voir, quoi.
Moi, je pense que c'est aussi pour montrer un changement d'attitude très fort. Si on reprend le fil, au départ, il était dans une posture très jupitérienne avec une verticalité absolue de l'exercice du pouvoir. Ensuite, il y a une phase de verticalité relative qui était celle du grand débat où on consultait un petit peu, etc. Là, on arrive à une horizontalité appliquée où on consulte tous azimuts, et l'incarnation de ça, c'est justement la Convention nationale. Donc moi, je pense que cette convention, au-delà du fait que ça traite de sujets écologiques qui sont centraux, c'est aussi une façon de dire, vous voyez, j'ai compris, je j'exerce pas tout seul le pouvoir. En revanche, les corps intermédiaires, je sais pas exactement encore ce que je vais en faire, mais par contre, c'est le pouvoir et le peuple, et on va parler ensemble directement.
Alors, justement, je poursuis Sophie de Ravinel, après ce qui vient d'être dit. Il y a dans cette République, au fond, la République classique, les élections, le système, et puis à côté, il y aurait une sorte de démocratie participative qui se... et les deux coexistent, c'est ce qu'on est en train de nous installer.
Mais c'est pas mal. C'est souvent ce qu'a voulu être le CESE, à qui on n'a jamais, le Conseil économique et social, qui abrite, et environnemental d'ailleurs, qui abrite les débats, qui a en partie organisé la convention. Et on ne les a sans doute pas assez écoutés. Et il faut se souvenir un peu de l'origine de cette affaire, qui était liée aux Gilets jaunes, qui était liée à une aspiration de démocratie directe, et qui était déjà une réponse effectuée par Emmanuel Macron à ces demandes-là, et qui se conjuguait avec une aspiration et l'écologie déjà pressentie. Mais ce qui me frappe, c'est que, évidemment, lundi, Emmanuel Macron va décliner son discours en fonction des résultats de la veille, mais c'est quand même compliqué pour lui, parce que pendant ces municipales, autant au premier tour, tout le monde a cherché à verdir ses listes de toutes les façons, au premier tour, etc. Autant au deuxième tour, très séparé du reste avec la crise entre-temps, là, ça a été vraiment ce qu'ils ont appelé, les écologistes, un front anticlimat, c'est-à-dire des associations LR, LREM, très hostiles à l'écologie. Et comment le président, le lundi, peut-il prétendre vouloir réconcilier les Français là-dessus, alors que toutes ces déclinaisons municipales se sont affrontées à ce sujet-là.
Éric Chaal, comment répondre à ce que dit à l'instant, ce qu'explique Sophie de Ravinel? C'est vrai qu'il y a une forme de contradiction. Il y a ces fronts, effectivement, qui se constituent pour tenter de conserver certaines municipalités. Et puis un président qui dit, allez, chiche, on y va, verdissons notre économie.
À partir de lundi, clairement dans la tête du président, c'est 2022 qui commence à se jouer. Et donc il faut quand même interpréter ce qui va se passer toute la semaine prochaine, mais surtout dès lundi, une mise en route d'un processus qui va le conduire jusqu'aux élections. Et en ce sens-là, évidemment, ça c'est pas du tout un hasard si on a ce résultat de la Convention citoyenne. Mais cette convention, elle a tout un passé. Et en fait, il passe son temps à enjamber les événements. C'est-à-dire qu'on était sur les Gilets jaunes. Ça a donné lieu à cette convention que moi-même, d'ailleurs, j'ai défendue ici, sur ce plateau. Et je pense que j'ai fait une erreur en la défendant. Il faut reconnaître ses erreurs.
Et
je pensais que c'était une bonne chose. Je pense qu'en réalité, on a aussi besoin d'experts et qu'il faut pas dénigrer en permanence les experts. Je pense que les experts ont leur rôle important dans le débat public et qu'il y a parfois, parce qu'on a quand même vu, reprenez les 110 km/h. Est-ce qu'on veut vraiment retomber dans le débat qu'on a eu il y a 2 ans sur les 80 km/h? Est-ce qu'on veut retomber dans ça a mis le feu aux poudres politiquement, cette histoire des 80 km/h, et c'est ce qui risque aujourd'hui de se repasser. Donc, je suis pas certain du tout que cette convention...
Vous êtes moins enthousiaste que beaucoup moins.
Moi, je fais mon mea culpa symétrique, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'étais un petit peu... je doutais beaucoup, et je trouve que les propositions, pardon de le dire, mais elles sont extrêmement ambitieuses. Et tout à l'heure, vous disiez, est-ce que on a des citoyens qui une sorte de deux institutions politiques avec des citoyens en direct et puis la représentation nationale. Mais c'est peut-être finalement cela qui va émerger Un droit d'initiative provenant de la base, une mise en place provenant, je dirais, de ceux qui ont la légitimité élective, le pouvoir élu.
Deux regards sur cette convention, donc pour le climat, 20h40 sur France Info, le Fil Info avec Emmanuel Langlois.
Attention aux orages, une vigilance orange qui s'étend désormais à 20 départements sur une ligne qui va de la Seine-et-Marne jusqu'à la Haute-Garonne au sud, en passant par la Dordogne et la Haute-Loire. De fortes pluies qui pourraient être accompagnées la nuit prochaine de chutes de grêle et de rafales de vent jusqu'à 110 à 120 km/h localement. Lui avait grièvement blessé un enfant de 5 ans, c'était avant-hier, lors d'un rodéo sauvage à Vaux-en-Velin, tout près de Lyon. Le conducteur d'une moto s'est livré à la police, il est âgé de 25 ans, connu des services de justice. L'état du garçonnet, lui, s'est amélioré. Son pronostic vital n'est plus engagé, d'après les médecins. Sur France Info, un collectif d'habitants dénonce l'ampleur catastrophique de ces rodéos et réclame que ça cesse. Vent de panique aux États-Unis où la pandémie de Covid-19 repart à la hausse ces derniers jours. Connue pour sa fête et ses plages, la Floride interdit ainsi la consommation d'alcool dans les bars pour faire face à l'explosion de cas. Le Texas, qui fait également face à une résurgence du virus, annonce, lui, la fermeture tout simplement de ces bars. Et puis à la veille d'une conférence des donateurs, l'OMS annonce que près de 28 milliards d'euros seront nécessaires dans les 12 prochains mois pour mettre au point les tests, les vaccins, les traitements contre le Covid-19. Or, à ce jour, à peine plus de 10% de la somme ont pour l'instant été promis. Un mot de football, le PSG et Lyon s'affronteront le 31 juillet en finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera au Stade de France, initialement prévu début avril. Le match avait été reporté évidemment en raison de la pandémie. La finale de la Coupe de France, quant à elle, entre Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain, est programmée le 24 juillet prochain.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et ce remaniement, alors, on en parle ou pas ce soir? Jusqu'où ira-t-il? Ira-t-il jusqu'au ministère de l'Intérieur, place Beauvau? Christophe Castaner en visite aujourd'hui à l'École nationale de police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. A réitéré son soutien au FDO, aux forces de l'ordre. Nous sommes là et nous serons encore là pour vous défendre, a lancé le ministre de l'Intérieur qui a fait allusion aux déclarations de l'automne dernier de Jean-Luc Mélenchon.
La crise sanitaire n'est pas encore achevée. Pourtant, déjà, d'autres crises s'avancent dont tous les ennemis de la loi et de la République veulent faire leur lit. Les propos sont tronqués, déformés. Les images trompeuses jetées en pâture sur les réseaux sociaux. Hier, des députés s'autorisaient à traiter les policiers de barbares. Et voilà qu'à présent, des élus, saints de l'écharpe tricolore, inaugurent à Stain une fresque de la honte, une fresque choquante qui mélange tout, qui confond tout.
Alors Sophie Travinel, là, le ministre parle à sa police. Hein, oui. C'est la même qui manifeste. Hein,
et il parle fort.
Contre ces récentes mesures.
Absolument. Et c'est très, là aussi, on a l'impression qu'il veut se réinstaller dans une image qui était dégradée vis-à-vis de ces hommes, entre guillemets, et de ces femmes, d'ailleurs. Et il est dans une espèce de retour en arrière. On ne sait pas s'il y a une pression de l'intérieur, de Nunes, son numéro 2, qui voudrait peut-être prendre sa place, ou de, on ne sait pas très bien, ou s'il veut se réinstaller.
Vous dites qu'il y a un parfum de remaniement derrière.
Il y a un parfum de remaniement derrière, c'est sûr. Mais il y a aussi, sans doute, les syndicats de police qui lui ont manifesté leur désir aussi d'être soutenu de façon plus virile.
Franck de Dieu, il faut remanier ce gouvernement, il faut aller jusqu'à Beauvau?
Ah bah, là, on était tous d'accord à peu près, il y a eu ce discours, mais pour dire que quand même les jours de M. Castaner étaient comptés, et on s'est aperçu qu'effectivement Nunes a plutôt bien réagi, n'est pas tombé dans le coup de l'émotion. Hein. Vous vous souvenez cette hiérarchie des lois qui vous disait que l'émotion finissait par être au-dessus des lois dès lors qu'il s'agissait de manifester. Il y aura aussi, on en a beaucoup parlé, une sorte de ministres verts qui vont apparaître, et puis j'ai envie de vous dire, il y aura quand même un problème de vivier. C'est-à-dire qu'il reste plus grand monde à piocher. Piocher dans quel... Oui. On a tout tenté, alors sur le plan, à la fois du point de vue stratégique avec le en même temps, et même à la fois du point de vue du casting avec des personnes. On a l'impression qu'il est un petit peu, je dirais, nu.
Oui, les talents, il en reste, Marie-Virginie Duclin, quand même, non?
Moi, ce que j'aime dans les remaniements, c'est que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas du tout qui va être, voilà, ni quand, ni quoi, ni comment, ni qui.
Je vous remercie d'ailleurs ce soir de ne pas balancer des noms dans le vide qui ne servent à rien, donc c'est parfait.
Non, mais ce que je suis très curieuse de voir, c'est est-ce qu'il va rester sur son orientation initiale qui était de mettre des personnalités de la société civile. C'était vraiment son grand engagement au moment de son élection et de son ascension au pouvoir. Ou est-ce qu'au contraire, il va nous faire quelque chose de plus monde d'avant en mettant des vraies personnes, des politiques pures qui ont un poids justement politique, symbolique aux yeux des Français. Ça, c'est...
Je voulais vous faire quand même écouter ce qu'a répondu tout à l'heure Daniel Obono, la députée La France Insoumise de Paris, au propos de Christophe Castaner, qui avait évoqué les barbares. C'était, vous saviez, la tirade, les barbares de la police de Jean-Luc Mélenchon. C'était en septembre dernier, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Voici Daniel Obono dans le 1850 France Info.
Je ne crois pas qu'il faille répondre au ministre de l'Intérieur, puisque de toute évidence, ce n'est plus un ministre. Parce qu'en fait, un ministre sait à un moment donné dire stop quand il y a des comportements problématiques. Et Monsieur Castaner, depuis plus d'un an, et encore plus récemment, a fait preuve d'un déni irresponsable. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ministre de l'Intérieur.
Nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur. Bon, par-delà le jeu politique, Sophie Dravinel, il y a une forme de tension aujourd'hui tout de même.
Oui, il y a une tension très forte. Dans le débat politique. Oui, il y a une tension très forte. Elle ne date pas d'hier. Tout ça est tiré des Gilets jaunes et encore avant de toutes les manifestations sur la loi travail. Et puis, les retraites.
Il faut refermer cette séquence désormais aujourd'hui. Passer à autre chose.
Oui, il y a une séquence à refermer, mais la difficulté, c'est de savoir comment Emmanuel Macron, effectivement, va pouvoir la refermer et avec qui. Est-ce qu'il va faire un remaniement important en changeant son premier ministre, en changeant d'équipe, mais il va devoir élargir sa base pour confirmer son intuition, qui est de l'élargir à droite, à gauche, société civile, effectivement. Ou est-ce qu'il fait un petit remaniement technique avec, effectivement, la possibilité de changer de ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même quelque chose de fort. Et on entend, même sans citer de nom, des personnalités actuelles ou passées, et suivez mon regard, jusqu'à l'Espagne puis la France, qui ne rêveraient que d'une chose.
Vous parlez de Manuel Valls.
Absolument. Mmh. C'est de rentrer au gouvernement à cette poste-là.
Ouais. Éric Scholz, il y aura sans doute une sanction électorale ce dimanche, puisque La République En Marche ne va pas conquérir un océan de villes dans ce pays. C'est déjà dit, eux-mêmes le reconnaissent. Ce président, au fond, vit des mois et des mois de contestation. Comment est-ce qu'il peut sortir à travers un remaniement ministériel et est-ce qu'il donne un coup de barre à gauche?
Si vous accumulez l'ensemble des défis qui se présentent à lui, et avec... En perspective, l'élection aussi de 2022, percevez que c'est très compliqué et que ce remaniement, il faut avoir en tête lorsqu'on imagine ce remaniement, l'ensemble de ces défis. Et l'un des défis, c'est aussi l'apaisement du pays, la réconciliation, la nécessité de réconcilier, aussi de retrouver, si vous voulez, l'écoute du pays, qu'on lui a reproché ça. Donc, il doit faire à la fois tout ça. Ça peut se faire par des nominations, mais vous comprenez qu'on n'est pas juste sur un petit jeu de tiens, je te mets là, je retire Castaner et j'en mets un autre. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Et tout cela se fait quand même dans un contexte de crise économique et sociale. On n'a pas des beaux jours devant nous.
Non.
On sait qu'on est en train d'affronter une crise sociale et économique. On le voit avec les annonces de Sanofi ou d'ailleurs. Le prochain gouvernement va continuer à gérer une crise forte. Donc, effectivement, pour le gouvernement, plus le côté, il faut verdir. Donc, vous savez, l'ensemble des défis qui se posent à Emmanuel Macron, si vous ajoutez on a commencé l'émission avec là-dessus, avec son Premier ministre. À partir du moment où il garde son Premier ministre, comment est-ce qu'on fait les changements ailleurs? S'il change de Premier ministre, c'est le Premier ministre qui représente ce changement et il peut peut-être garder ses piliers aujourd'hui. Il faut aussi, bien sûr, tenir compte de la parité. Et enfin, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce problème du vivier. C'est vrai que le vivier, il n'avait pas l'air aussi...
Il serait précis.
Où sont les bonnes compétences dans le personnel politique ou même dans la société civile aujourd'hui pour Emmanuel Macron?
Marie-Virginie Klein, vous êtes pessimiste ou aussi pessimiste qu'Éric Scholz?
Non, mais je me dis, et là, il va falloir qu'il fasse un coup. C'est-à-dire qu'il a créé et suscité une telle attente auprès de l'opinion sur remaniement ou pas remaniement, Édouard Philippe, pas Édouard Philippe. Et surtout, il nous a tellement parlé du monde d'après et de la façon dont les choses ne pourraient pas continuer comme là où elles s'étaient arrêtées, qu'il va de toute façon falloir qu'il se passe quelque chose. Et ça peut pas être un remaniement qui n'ait pas un sens très politique très fort. Ou si le remaniement est mineur, il va falloir qu'il y ait une autre annonce forte qui nous redonne envie de le suivre pour deux ans.
Allez, 20h50 sur France Info. Le Fil Info, Emmanuel Langlois.
Inacceptable et honteux, virulente réaction des syndicats après l'annonce de Sanofi qui veut supprimer 1700 emplois à travers l'Europe, dont un millier en France, alors même que le groupe pharmaceutique a vu ses ventes nettement progresser, bondir même au premier trimestre grâce à la crise sanitaire. Bercy promet ce soir d'être vigilant après cette annonce. Il y a du jour, il faut dire que lors d'une visite d'Emmanuel Macron dans son usine du Rhône, Sanofi annonçait en grande pompe qu'il allait consacrer plus de 600 millions d'euros à la construction d'une nouvelle usine en France. Après près de 3 mois de fermeture en raison du coronavirus, l'aéroport de Paris-Orly a repris son activité vols commerciaux, pour l'instant à minima. La réouverture a été perturbée ce matin par une vingtaine de militants écologistes de l'association Extinction Rébellion. Ils ont réussi à s'introduire sur une piste pour réclamer l'arrêt du trafic aérien. Le Conseil d'État lui ordonne à la commune de Lys dans l'Essonne de cesser l'usage des caméras thermiques dans les écoles. Elles avaient été installées pour lutter contre la propagation du Covid. D'après le Conseil, elles portent manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel des établissements. La France enregistre 26 décès supplémentaires à cause de la pandémie ces dernières 24 heures. Un bilan qui approche toujours les 30 000 morts dans le pays. Depuis le début de cette épidémie, le nombre de patients en réanimation, lui, continue sa décrue. La ministre de la Justice demande un rapport sur l'enquête du parquet national financier dans Le Point, révélé hier qu'il avait surveillé plusieurs avocats et magistrats dans le but d'identifier une taupe en lien avec l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Et puis une centaine étaient déjà porte-close pour cause de pandémie. Ils ne rouvriront pas. Microsoft annonce la fermeture de la quasi-totalité de ses magasins à travers le monde. L'essentiel de ses ventes se faisant maintenant sur Internet.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Langlois évoquait à l'instant le PNF, enfin le parquet national financier et ses révélations de l'hebdomadaire Le Point. Officine, a dit ce matin Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, également candidate à Paris face à Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, invitée de France Info.
Ce parquet national financier, avec tout ce qui sort, c'est pas un parquet. C'est une officine. C'est une officine. Alors maintenant, il faut savoir pour qui elle travaille, cette officine. Mais moi, je veux vous dire, entre Sarkozy et Fillon, qu'est-ce que je... Et encore une fois, je le dis très à l'aise, je suis magistrat. Donc j'appartiens à cette corporation. Mais c'est une fragilisation, c'est la mise en cause de l'état de droit. Donc on se rend compte qu'on a des magistrats qui mènent un combat acharné contre la droite républicaine.
Franck de Dieu, officine, dit Rachida Dati.
En tout cas, cette histoire, elle choque beaucoup les Français qui sont partagés au regard des juges entre... Ils refusent un gouvernement des juges avec parce que c'est notre tradition politique, oui, qui remonte à la Révolution française, où on se dit, et à Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs, mais il y a aussi quand même, je dirais, une prime pour celui qui a une légitimité élective par rapport à celui qui a une légitimité plus technique et qui sait le droit et qui incarne la justice. Bon, donc les Français sont quand même attachés à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement de juges. Mais il faut bien avouer aussi que ces derniers temps, on voyait l'inverse. C'est-à-dire qu'on voyait au contraire des politiques qui se sentaient passés au travers les mailles du filet. On a parlé de l'affaire Ferrand, etc. Bon, donc là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un trouble. On peut demain éviter à la fois le gouvernement des juges et puis à la fois avoir des politiques qui ne se sentent pas supérieurs, avec des droits supérieurs aux citoyens, parce que ça agace profondément les gens. Mais je crois qu'il faut pas oublier une chose, si on en revient à la tradition politique, c'est que les Français veulent quand même que le pouvoir, en dernier ressort, appartienne à celui qui a une légitimité démocratique.
Et là-dessus, Sophie de Ravinel, puisque l'on parle de légitimité démocratique et technique, comme le dit à l'instant Franck de Dieu, ce PNF, ce parquet national financier, trop de pouvoir concentré dans un parquet assez autonome finalement.
Oui, un parquet assez autonome, qui a une compétence nationale et qui est créé pour la grande délinquance financière à l'époque de l'affaire Cahuzac, justement. Mais pour rassurer les Français. Et là, effectivement, on parlait précédemment de toutes les crises qui menacent d'agiter le pays. pays. On parlait des gilets jaunes, de la montée d'un désir d'environnement, de changement de société, etc. Là, ce sont des vieilles pratiques. Je ne sais pas si officine ou pas. Je ne sais pas qui est desservi ou servi dans cette affaire, si c'est effectivement les juges ou si c'est les politiques qui ont cette appétence à mettre toujours leur nez dans les affaires judiciaires. Mais de fait, il y a un problème. Et d'ailleurs, Nicole Belloubet l'a reconnu. Elle a demandé à ce que soit diligentée une enquête. Oui. Mais je trouve effectivement que on peut s'interroger sur les concordances de temps, de sortie de ces affaires, etc. Ça tombe mal et il y a un vrai problème.
Éric Scholl, il y a un problème. On parle tout le temps de réforme de la justice de façon récurrente. Effectivement, vous faites bien, Sophie de Ravinel, de rappeler les circonstances de création, de la création de ce PNF après l'affaire Cahuzac. Et aujourd'hui, c'est quelque part, il y a un petit côté arroseur arrosé, hein, Éric Scholl.
Bien sûr, à la fin de l'automne, on a publié dans l'Express un sondage, on a fait une couverture là-dessus sur les Français et la justice. Et ça montrait très clairement une défiance vis-à-vis de la justice, ce qui est quand même extrêmement ennuyeux. Je pense que cette défiance n'a fait que s'accélérer, parce que au fond, la justice devrait être là au service des Français et au service quasiment au quotidien. Et on s'aperçoit de plus en plus d'une impression que cette justice ne fonctionne pas, qu'elle n'a pas toujours les moyens budgétaires de fonctionner, et aussi qu'elle est manipulée, qu'elle est finalement qu'elle ne fait pas une bonne justice. Et c'est très exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ce qui a une conséquence politique, parce que finalement, ça finit par éloigner aussi les Français de la politique. Les deux sont séparés, mais on a quand même l'impression que il y a des manipulations de part et d'autre. Ça ne fait que accroître, si vous voulez, ce sentiment de défiance vis-à-vis des institutions.
Et on arrive à quelque chose de baroque en une seconde, qui est cette alliance entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, même combat, même dénonciation, et finalement, au résultat, une réhabilitation de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions.
Très vite, Marie-Virginie Klein attend très fort donc la semaine prochaine, après ces municipales, ce remaniement, il y a quelque chose d'assez infranchissable hein, quand même.
Comme a commencé à le dire Sophie Dravinel, c'est vrai que le timing est tout à fait spécial. Ça arrive pile à la veille du procès Fillon et à la veille des municipales.
Vous faites bien de le rappeler également, le procès Fillon. Franck de Dieu, la une donc de Marianne. Rappel.
Municipal, régional, tripatouillage et abstention. Vous avez 100 villes, vous avez la vraie cote d'amour de votre prochain maire.
Avec effectivement ce comptage terrifiant que vous nous avez soumis tout à l'heure.
Absolument.
Éric Scholl, la une de l'Express.
On a pris un peu de champ, mais c'est très important, une vraie menace. C'est la façon dont la Russie mène une cyberguerre contre la France et contre des intérêts
français. L'espion qui nous hackait.
L'espion qui nous hackait à la une de l'Express.
Avec un récit, j'imagine, assez détaillé de ce qui se passe.
Notamment le réseau électrique français, des tentatives par la Russie. Je pense que c'est des menaces qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont très présentes et qui vont nous occuper de plus en plus dans les prochains mois, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs en Europe.
Et bien réel, donc dans le magazine L'Express, Sophie Dravinel, Le Figaro, demain
nous,
à la une.
Eh bien nous en revenons aux élections municipales de dimanche sur les inconnus d'un scrutin inédit.
Et je vous rappelle, hein, dimanche soir, à partir de 19h30, soirée spéciale sur France Info, spéciale élection municipale pour le deuxième tour, animée par Marc Fauvel et toute la rédaction de France Info. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci à tous les quatre, hein, Sophie Dravinel, Marie-Virginie Klein, Éric Scholl, Franck de Dieu. Merci d'avoir participé à ces informés de France Info.